Bonjour, André Tozel, philosophe et auteur entre autres d'essais pour une culture du futur paru aux éditions du Croquant, est avec la complicité de l'Huma Café de Nantes l'invité du magazine. Il est intervenu au lieu unique à Nantes sur le thème « Mondialisation, sommes-nous condamnés à l'impuissance ?» Mais avant d'illustrer ce thème, André Tozel revient sur son parcours.
Moi, désormais, je fais partie des vieux, puisque j'avais 20 ans en 61. J'ai été politisé donc, par la guerre d'Algérie, puisque j'ai été de ceux qui n'ont pas fait la guerre, qui ont eu la chance de ne pas y participer, et qui ont compris que c'était une mauvaise affaire pour la France, pour les classes populaires, comme les suites des choses l'ont montré. Et ça m'a politisé, je dirais, de manière durable, puisque les États, y compris les États civilisés, peuvent faire des choses qui sont non seulement moralement critiquables, mais qui sont même politiquement et économiquement malvenues et même stupides. Et cet engagement, je l'ai, je crois, maintenu depuis toute ma vie, avec des formes précises ou concrètes diverses. Mon milieu d'origine, c'est une espèce en voie de disparition, c'était les chrétiens de gauche. Et comme témoignage chrétien subsiste, enfin, moi, je ne suis plus chrétien de gauche, mais enfin, je n'ai rien contre, bien entendu, les valeurs et les principes qui guidaient l'action. J'ai été surtout donc engagé dans le syndicalisme universitaire qui actuellement n'existe quasiment plus. C'est une machine à fabriquer des dirigeants d'université qui appliquent la politique qu'ils dénoncent sans trop de problèmes. J'ai été engagé dans le Parti communiste, et j'étais de ceux qui ont cru à l'union de la gauche, qui pensaient qu'effectivement il y avait des problèmes internes, et qui pensaient que la manière dont le Parti communiste essayait de reprendre la main en se faisant comprendre de personne était improductive. Et d'autre part, je contestais la manière dont la machine fonctionnait de l'intérieur avec son système de délégation, qui finalement compromettait ce qu'il pouvait y avoir de meilleur dans ce parti, à savoir une capacité à prendre en charge les besoins populaires et de les faire avancer le plus possible. Bon, l'histoire a tranché, la gauche n'existe quasiment plus, le Parti socialiste est un parti de gouvernement social-libéral, il ne s'en cache plus, il ringardise tout ce qui prétend le contredire, le Parti communiste existe à l'état de petite organisation, qui a ma sympathie, disons, intellectuelle et morale, mais dans laquelle je ne milite plus vraiment, mais où je maintiens un symbole, plus que symbolique, je maintiens un attachement, parce que je ne vois pas où j'irai d'autre. Ceci dit, si j'étais plus jeune, il est probable que j'aurais fait un autre choix, puisqu'il y a beaucoup d'activités associatives dans lesquelles les jeunes, contrairement à ce qu'on dit, s'engagent. Ce n'est plus le syndicalisme pour les raisons bureaucratiques internes qu'on aurait à dire, parce que si la gauche est vaincue par la force des choses, il y a aussi quelque chose qui dépendait d'elle, qu'elle n'a pas fait, et il ne suffit pas de dire c'est la faute aux autres. Il y a aussi ce qui était chez soi, qui relevait de soi et qui n'a pas été fait en temps utile. Ça n'aurait peut-être pas suffi, mais ça aurait dû être fait. Donc voilà, mon parcours il est simple. Hein, et j'ai été, bien entendu, en même temps professeur de lycée, puis à l'université. Je suis donc, ce qu'on disait à l'époque, un intellectuel engagé. Voilà, c'est tout.
On ne se souvient pas de cette époque, mais il y avait les Mao contre les Trotsko. Et vous avez choisi d'être Mao.
Au début, oui, parce que je pensais que, oui, bien entendu, ça s'est révélé être un fantasme. Hélas, on pensait que la capacité qu'avait la Chine de pouvoir déborder sur la gauche, l'Union soviétique fossilisée, prise dans sa bureaucratie, et dans la difficulté à construire quelque chose qui pouvait s'appeler le socialisme, pouvait venir du côté donc, de cette Chine qui semblait présenter une autre voie. Bon, dans tout ce qui a été fait, quand Mao ne voulait pas industrialiser trop vite la Chine parce qu'il pensait que la question paysanne se poserait pendant longtemps et qui durait ensuite une grosse question qui se poserait, il n'avait pas tort. Il est bien évident qu'on a compris un peu tard que Mao avait réussi à l'intérieur du parti à jouer mobiliser une partie de la jeunesse qui ensuite elle a réprimé et que finalement, comme souvent en histoire, on est pris dans des illusions. C'est toujours facile de faire cela, faire la critique quand c'est passé. Je dois faire la critique de ce qui a été une erreur et une illusion. Mais j'aimerais bien que ceux qui sont actuellement au pouvoir, les gens de ma génération, fassent aussi la critique de leurs propres illusions aujourd'hui, de nous faire croire que ce système économique et social qui a une capacité extraordinaire de rebondir peut représenter un mode de vie satisfaisant pour l'immense majorité des gens qu'on peut appeler les subalternes.
Qu'est-ce qui vous a construit comme militant ? Une formation politique, des études philosophiques, le tout, les deux?
La formation un peu militante, elle me vient, si vous voulez, de la pratique de la socialisme chrétien de gauche. Mais je l'ai retrouvé dans le syndicat et dans le parti, sous des formes d'ailleurs un peu différentes, puisque la bureaucratie interne communiste était plus lourde à porter que la gestion souple de l'Église. Mais ça ne m'a pas empêché d'être crossé par l'épiscopat lorsque le secrétariat national de la GEC, de jeunesse et de l'Union chrétienne, dont je faisais partie, a dû démissionner après les histoires de Charonne, les massacres de Charonne. Donc, certainement, l'engagement éthico-politique est fort. Mais il a toujours été soutenu chez moi. J'ai essayé, tout au moins, pour la partie qui me revient, d'être lié à une critique et une vision philosophique de la société qui, grosso modo, peut être appelée une vision de l'émancipation sociale qui débarde largement l'émancipation politique, puisque la démocratie politique a des limites. S'il n'y a pas de démocratie sociale, la démocratie politique dépérit, comme on peut le voir actuellement. Et si la démocratie politique dépérit par un cercle vicieux, eh bien la démocratie sociale ne se construit pas ou mal. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui a considérablement évoluer dans un sens, de ce point de vue, apparemment négatif, puisque le mouvement ouvrier a perdu sa force de choc. Les mouvements associationnistes existent, ils sont très riches, mais ils ne communiquent pas. Ce sont des parallèles, si vous voulez, des parallèles qui ne se retrouvent pas. Et puis surtout, on ne peut pas demander de demander à ce que toutes les parallèles convergent pour faire un espèce de « un » qui domine le tout. Il n'y a pas de traduction dans les uns, dans les autres. Alors là, je pense, si vous voulez, qu'autant la défaite a été de la gauche historique et qu'il faudra de très longues années pour construire quelque chose, je pense que des choses étaient d'autres possibilités. Je pense au mouvement associatif. Un exemple, la sécurité sociale. La sécurité sociale, tout le monde proteste lorsqu'il y a donc des attaques, comme on dit, contre elles, pour diminuer les remboursements, etc., etc. Mais on oublie que la sécurité sociale a été originairement, en 1945, un organisme de cogestion où le monde ouvrier devait participer avec l'État et avec le patronat, à égalité. Il y avait là une occasion assez unique, importante, pour les représentants des ouvriers, eux-mêmes, de faire exister une démocratie de gestionnaires de base. Or, cela est passé à la trappe. Il y a eu une immense déperdition dans les capacités que pouvait avoir le mouvement associatif. C'est vrai pour les mutuelles. Les mutuelles, maintenant, sont devenues des assurances privées. Or, on oublie, je pense que ce sera peut-être quelque chose qui fera rebondir petitement, mais malgré tout réellement, le mouvement social. On oublie ceci. Une assurance privée, le principe c'est vous donnez tant, vous aurez tant en soins. La mutuelle c'est chacun donne ce qu'il peut et tout le monde aura droit aux soins. C'est deux philosophies, c'est deux visions de la vie différentes et je pense que ça peut être réactivé et ça devrait l'être réactivé. C'est quelque chose qui est à la portée des gens là où ils vivent. S'ils se considèrent infiniment comme des assistés à vie en fonction de ce qu'on appelle en idéalisant l'état social, le welfare state, ils se trompent. Alors, je crois que partout il y a des exemples de, je parle de la mutuelle, la sécurité sociale, même le syndicalisme d'une certaine manière. À tout ce, si vous voulez, qui est la structure de la société dite civile et que l'idée qui consiste à croire qu'il faudra prendre le pouvoir d'État et que tout se passera mieux après, c'est une illusion. Le pouvoir d'État ne sera rien s'il n'y a pas, non pas une vision basiste, mais une construction patiente, intelligente, tenace, d'éléments de construction de liens communs, de liens sociaux, à la base, là où vivent les gens. Alors, la préoccupation, pour moi, elle est là, parce qu'il y a dans notre société des éléments pour briser tous les liens sociaux, pour réduire les gens à la dépendance, et pour faire monter en eux une espèce de ressentiment et de rage, peut-être avec des explosions de colère, mais les explosions de colère ne sont pas nécessairement productives. Le moteur de l'époque, c'était que la politique au poste de commandement, ce qui en soi n'est pas faux. C'est bien donc par l'action en commun collective au niveau de l'entité territoriale la plus vaste qui était à l'époque l'État-nation que les choses devaient se passer. Mais la délégation totale à ce niveau de responsabilité ne peut construire quelque chose de solide que s'il y a à la base exploitation des possibilités, que s'il y a un tissu social qui a été reconstruit. Espérer aujourd'hui que en 2017, en 2020, en 2024, les élections présidentielles résolvent la question, c'est une utopie. Le problème n'est pas d'idéaliser la base. Le lien social est délabré partout, mais partout, il y a des gens qui essaient de lutter contre cela. Or, c'est ceux-là qui doivent aujourd'hui reprendre courage. Peut-être, ensuite, le mouvement pourra peut-être trouver un nouveau débouché politique, ce qui implique probablement une nouvelle pratique de la démocratie. La démocratie délégataire, telle qu'on la connaît, dans la mesure où elle devient une démocratie, elle n'est plus qu'une démocratie de marché, est morte.
Donc il faut tuer les partis et autoriser l'émergence de leaders associatifs.
Je ne dis pas tuer les partis, certains n'ont pas besoin de personne pour se tuer, ils se suicident eux-mêmes. Dans la mesure où ils sont donc des instances qui sont autoréférentielles, qui sont inscrites dans la gestion des affaires, qui trouvent, il y a des places, il y a une planète des classes, il y a une des places, il y a des intérêts. Donc les partis, voilà. sont happés par ce système-là. Il peut y avoir une forme des partis qui lutteront de l'intérieur contre cela. Ce sont des vieilles choses qui ont travaillé toute l'histoire du mouvement politique de gauche. Ça, c'est pas nouveau ce que je dis. En attendant, et pour que cela se produise, qu'on puisse avoir la prise en charge à un niveau plus collectif, la nation, une région, au niveau de la décision politique, quelque chose de nouveau, il n'y aura rien s'il n'y a pas, déjà, de la part de ceux qui sont les premiers concernés, une action en première personne. Une action en première personne, c'est-à-dire non pas un jeu, mais un nous. Une pluralité de nous. Nous nous sommes ensemble. Or, je crois que le meilleur de l'expérience ouvrière ou du mouvement social, dans lequel je me situe, moi j'ai travaillé un peu sur Spinoza et son idée de démocratie des singularités, j'ai lu beaucoup Marx, j'ai lu beaucoup Gramsci, bon, ce sont mes références philosophiques, et la philosophie classique, mais les plus importantes sont celles-là, ce sont des penseurs qui ont toujours montré qu'il y avait un cercle entre le haut et le bas. S'il n'y a pas une transformation donc, de la mentalité des gens qui sont en bas, qui n'ont pas beaucoup de causalité parce qu'ils n'ont plus de pouvoir, et s'ils n'essaient pas de reconquérir, de se réapproprier un peu d'action sociale et politique, rien ne se fait. Et en même temps, la fonction des élites ou des directions, c'est d'interpréter ce qui se dit à la base, de le traduire en langage politique, mais en même temps aussi de se laisser éduquer par ce qui est dit. Et à la base, c'est la même chose, il y aura des illusions à critiquer. Il y a un cercle entre les simples et les subalternes, entre ceux qui ressentent des difficultés, qui les expriment, qui ne sont pas des abrutis, qui ont des idées, et puis ceux qui doivent les interpréter, qui souvent sont complètement décrochés de ce que les gens sentent. Donc, c'est ce cercle vertueux entre le sentiment et la raison, si je peux dire. Or, les partis ont besoin de revenir, s'il va être quelque chose de façon, des interprètes de la réalité, pas des sens de direction qui d'en haut disent ce qui est permis, pas permis, qu'est-ce qu'on fera ou pas faire. Bon, donc là, je crois que l'expérience communiste est habilitée pour ces échecs. Hein. Parce que ce qui a pu être fait de bon, dans le socialisme municipal ou ailleurs, pas nié, bon, mais ça a été, ça ne peut plus suffire s'il n'y a pas à la base autre chose. Et tout le mouvement associatif est concerné par cette logique. C'est une autre logique. On la trouve, et voilà pourquoi les jeunes sont très méfiants, parce que les jeunes ne veulent pas se laisser embrigader. Ils veulent garder un peu le contrôle de leur action. C'est une génération, je crois, qui souffre beaucoup, plus que nous, les vieux, on l'imagine. Et on ne peut plus leur raconter trop d'histoires. Et ils veulent, en quelque sorte, comme saint Thomas, hein, voir par eux-mêmes.
Dans vos références, vous avez oublié Althusser.
Je n'ai pas oublié Althusser, parce que c'est par Althusser que... J'ai commencé par lire Spinoza, et Althusser m'a fait passer la médiation entre Spinoza et Marx. Il a eu une formidable influence éducative sur moi, mais je n'ai jamais été vraiment althusserien parce qu'Althusser avait cette idée que je n'ai jamais partagée, qui consiste à croire qu'on peut passer de l'opinion au savoir, qu'il y a une coupure épistémologique entre l'idéologie dont les gens sont pris et qu'ils ont besoin d'une instance supérieure qui fasse la critique d'idéologie, c'est le parti porteur de la science, et qui en quelque sorte conçoit la science détenue par un appareil déterminé comme quelque chose qui va résoudre les problèmes. Alors je crois que l'Althusser est resté très marqué par sa culture communiste d'origine. Mais pour moi, Gramsci, autant que... compter qu'Althusser, mais je dois dire que c'est grâce à Althusser que j'ai lu Gramsci. Donc j'ai beaucoup de respect pour Althusser, parce que c'est une figure dont il n'y a pas l'équivalent aujourd'hui. Ça a été un éveilleur, mais il y avait chez lui, comment dirais-je, une espèce de rationalisme un peu abstrait, où il y avait cette idée qu'on resterait toujours dans l'idéologie, qu'il y avait toujours besoin, ce qui est vrai, d'une instance rectificatrice ou correctrice, mais attendre du seul parti déposant le dispositaire de la science que cette correction en vienne, me paraît toujours une vue de l'esprit. Les choses sont plus complexes. Alors Gramsci dit quoi ? Il dit qu'il y a une espèce de continuum, c'est-à-dire de ligne continue avec des moments différents entre l'idéologie de base, la conception du monde qu'ont les gens, la critique qu'on peut en faire, et puis la philosophie comme conception du monde. Mais là aussi, c'est le cercle. Or, il y a une vision, je crois, plus juste, pédagogique, de la manière dont on peut changer soi-même, soit se changer. On ne peut changer la situation qu'en se changeant un peu soi-même. Or, je crois que c'est ça le ressort. Ça, je crois que Althusser, avec une conception extrêmement autoritaire, moi, la vérité, je parle un petit peu, même si je simplifie beaucoup, je ne voudrais pas le simplifier ainsi, parce que sa pensée mérite mieux. Mais si vous voulez, Althusser, pour moi, a eu une fonction de médiation, finalement, plus que de constitution. Moi, je ne suis pas un althusserien, je ne l'ai jamais été. J'ai été plutôt gramscien. Mais ceci dit, dans ma vie, Althusser a beaucoup compté. C'était parce qu'il nous a appris à lire, il nous a appris à ne pas être dupes, il nous a appris à nous approprier un peu Marx, autrement qu'il était présenté, et qu'il a joué un rôle fondamental dans la culture française et internationale, pas que la culture française. On oublie que dans les années 70, Althusser était lu dans le monde entier. Il était vraiment international. Donc, pourquoi j'ai eu ce lapsus sur Althusser ? C'est la question que vous me posez. C'est pas un lapsus, c'est parce que je pense que chez Althusser, il y a eu cette espèce de fantasme de la science, avec un grand thèse de la coupure épistémologique, qui a été à la fois libérateur. Que fait Marx ? Qu'est-ce que c'est qu'un savoir historique ? Ce n'est pas un savoir mathématique, ce n'est pas un savoir physique, c'est un savoir de la conjoncture, et c'est un savoir qui se transforme, qui néanmoins est toujours une instance de vérification par des genres, pris dans l'imaginaire, comme les directions elles-mêmes sont prises dans l'imaginaire.
André Tozel, philosophe et auteur entre autres d'Essais pour une culture du futur, paru aux éditions du Croquant, est avec la complicité de l'Huma Café de Nantes, l'invité du magazine.
Mais il y a toujours eu cette idée de la science rectrice. Et il s'est lui-même critiqué, Althusser. Le dernier Althusser ne dit plus tout ça. Alors, il valorise le contingent, l'aléatoire, quitte à se contredire complètement. Moi, je ne crois pas qu'il se contredise. Je crois qu'il se rend compte lui-même des limites de ce qui avait été porteur et effectif dans une conjoncture historique donnée, qui ne l'était plus. Donc, ma position à l'égard d'Althusser, elle est plus compliquée, si vous voulez. Donc, et le respect que je lui porte n'est pas affecté.
Au fond, nous sommes responsables des dirigeants que nous élisons, parce que, d'une certaine manière, on est plus des consommateurs d'eux que des citoyens. Je prends un exemple, souvent on adhère au syndicat parce qu'on est confronté personnellement à un problème.
Alors, je crois que c'est tout à fait juste. Il me semble qu'il y avait une citoyenneté des syndicats. Le syndicat, c'est la citoyenneté dans l'entreprise. Ce n'est pas simplement donc, la préservation des conditions de vie, bien entendu, fondamentale et élémentaire. Et la dimension corporative ne peut pas être éliminée, là, c'est là où les gens vivent et souffrent. Mais si les gens restent des vivants souffrants et s'ils ne conquièrent pas un peu d'initiative citoyenne sur le lieu de travail, et s'ils ne sont pas un peu plus exigeants et motivés à l'égard de leur direction, et s'ils ne les constituent pas, comment dirais-je, un appareil automatique à distribuer des prestations, ça serait beaucoup mieux. Je crois qu'effectivement, le système actuel a réussi cela. Il a réussi à transformer une grande partie de la vie syndicale, en la réduire à son niveau économique, proprement corporatif, alors que dans la vie syndicale, il y a certainement une citoyenneté, une dignité, une fierté qui relève de notre ordre, souvent négligée par le marxisme vulgaire, qui est celui, si vous voulez, donc de la consistance éthique et politique d'une personne humaine. Alors là, je crois que ce que vous dites est tout à fait vrai. Et d'ailleurs, quand ça marche comme dans le sens de cette éthique politique, c'est meilleur. Les résultats sont meilleurs. Les institutions sont plus solides. Et je crois que ceux qui pratiquent cela s'enrichissent et enrichissent la société d'une expérience nouvelle.
Pour la question qui sera posée dans le cadre de l'Huma Café, alors, je ne sais pas si c'est vous qui l'avez posée ou si vous avez répondu à une proposition. Comment la comprendre, cette question ?
Sur la mondialisation ? Écoutez, l'origine est simple. Moi, j'ai écrit un petit livre sur la mondialisation, enfin, plusieurs livres sur la mondialisation, dont un dernier essai pour une culture du futur, dans lequel je m'interroge sur ce qu'est devenu le monde. Et je dis, le monde est devenu un monstre. Le monde est monstre. Et pourquoi est-il monstre ? Pourquoi aujourd'hui, alors qu'on nous dit de tous les temps que grâce à la mondialisation, par les échanges culturels, par les échanges multiculturels, interculturels, nous appartenons tous au même monde ? C'est vrai. Mais la question est de savoir comment nous appartenons au même monde. Et nous appartenons de manière extrêmement différenciée, fragmentée et inégalitaire. Et effectivement, là, on se rend bien compte que le mode de production capitaliste, à son stade de financiarisé, tout en produisant le même monde, ne produit pas le même monde pour tous. Alors, nous sommes au monde, au même monde, mais nous n'y sommes pas vraiment ensemble, puisqu'il y a un monde donc, dont profite une classe, une espèce de nouvelle féodalité financière qui réussit à s'immuniser des dégâts de sa propre action et à se déresponsabiliser, voire l'affaire financière. Les banques font des affaires infructueuses et se font rembourser par l'État, puisqu'elles sont trop grandes pour qu'on les abandonne. Extraordinaire quand même. Et deuxièmement, dans ce système-là, ce qui est le plus inquiétant, et pourquoi c'est un monstre, c'est que les transformations technologiques qu'on peut pas, que le capital utilise pour maintenir sa productivité impliquent moins de travail et par conséquent obligent à maintenir à l'état permanent ce que le vieux barbu appelait une armée industrielle de réserve et qui est tout simplement une population surnuméraire inemployable, inemployée. Et que, ce qui fait qu'il y a des hommes en trop dont on ne sait que faire et qu'on a à la place de la vieille classe ouvrière qui est derrière les usines centrales, qui avait une force de choc, le fordisme, nous sommes dans un autre monde. On voit très bien comment les conflits ouvriers sont dramatiques. Réellement, ce sont des tragédies. On ferme les usines, on propose aux gens de l'argent, ils se reconvertissent, ils ne se reconvertissent pas. Enfin, quelque chose à jouer. Et la question que je me pose, c'est comment, à partir d'un monde du travail si fragmenté, et si vous y ajoutez, si vous prenez en compte la véritable fragmentation de la force de travail, les citoyens nationaux qui ont du travail, les citoyens nationaux qui n'ont pas de travail, à titre précaire ou à titre durable. Si vous ajoutez à cela ceux qui viennent de l'extérieur, les immigrés qui ont et qui n'ont pas de travail, qui bien entendu sont voués aussi à vivre dans les interstices de la société, si vous ajoutez à cela ceux qui n'auront plus rien de travail et qui sont sans, sont dépossédés de tout, désappropriés de tout, et ce qui est quand même un des traits majeurs de la situation qu'on vit, une désappropriation du jugement civique et de la capacité politique, là, il y a pour certaines des appropriations qui est plus radicale. C'est là aussi, vous voulez, je pense que la mondialisation doit être examinée de manière critique, mais il ne faut pas uniquement la présenter comme une espèce de diable. Pourquoi on peut la présenter d'abord comme un diable? C'est justifié dans la mesure où les libéraux nous disent que demain, ça sera formidable, il y aura des emplois pour tout le monde. Enfin, toute la théologie positive, la théodicée, la providence de la mondialisation, ça, je n'y crois pas. Mais il ne faut pas non plus, parce qu'il y a quelque chose de monstrueux, dire que c'est diabolique. Ce qui est diabolique, c'est peut-être un système qui est fondé sur la stimulation de l'indéfini de l'acquisition. Toujours plus d'argent. Alors là, ça, je crois qu'effectivement, ce désir illimité de l'appropriation financière est quelque chose qui aurait besoin d'être discipliné, civilisé. Je ne sais pas si on va sortir du capitalisme, mais je crois qu'à un moment, ce système rencontre toujours des limites. Alors, moi, j'essaie de réfléchir sur ces questions. J'ai donné deux exemples, la division, la nouvelle transformation des classes. Une classe dirigeante transnationale, qui elle-même est divisée, mais enfin qui garde la reine, le bloc des hommes politiques, des gens des banques, des gens des grandes entreprises. Ils se concertent, ils ont une politique, ils sont intelligents, ils savent ce qu'ils font, contrairement à ce qu'on dit. Mais ils font du court terme. Et ils imaginent que le système pourra en lui, le miraculeusement, la force de se corriger. Or, j'en doute, et d'autre part, pendant ce temps, s'est formée une espèce de plèbe mondiale, des multitudes mondiales, sur lesquelles beaucoup d'autres théoriciens plus avisés que moi ont réfléchi, je pense à ce que disait Negri, ou même peut dire Badiou, mais effectivement, ces multitudes existent, et le problème, c'est que ces multitudes sont dans un état de fragmentation incroyable. Bon, la vieille éthique ouvrière, de ce point de vue, elle n'existe plus, elle ne peut pas exister. Et donc, je pense qu'il y a deux lieux qui peuvent permettre de reconstruire quelque chose et essayer d'éviter cette mondialisation complètement négative. C'est donc ce qui peut se faire du côté du mouvement associatif, je viens de donner des exemples, et tout ceci dans le cadre de la ville. C'est dans la grande ville. Vous savez qu'il y a 40 villes qui sont des méga-villes et dans lesquelles la plupart des... Enfin, il faudrait voir les transactions qu'elles jouent. Enfin, ce que c'est qu'une grande ville aujourd'hui, une ville géante, dans laquelle il y a tous les circuits financiers, toutes les grandes entreprises, les dépendances, le personnel informatique, en fait, la multiplicité d'activités extraordinaires que cela génère. Or, et en même temps, les inégalités, la grande ville avec sa caste dirigeante et puis ses ghettos, ses populations qui sont à l'état fragmentaire, qui sont porteuses à la fois de révolte et aussi de révolte pas nécessairement productive si on ne peut pas clencher un processus d'activation productive de cette révolte. Ce qui me paraît menacé, et ça je crois dans ce sens, voilà pourquoi j'emploie le mot monstre à propos de la mondialisation, c'est que ça développe, ce système-là développe une violence incroyable dans les rapports sociaux que quelqu'un de ma génération ne pouvait pas imaginer. Ça n'a jamais été drôle d'être ouvrier, ça, Marx le disait, c'était vrai, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est encore moins. Or, il y a une violence objective de ce système qui prend les gens, qui les déplace, qui les transforme, qui les localise. Il y a une indifférence totale. Alors, c'est-à-dire qu'au fond, l'homme qui est un sujet libre, qui a une liberté de choix, c'est pas la liberté métaphysique, est devenu complètement objet. Il est objet-objet. Alors effectivement, on ne peut pas transformer complètement quelqu'un en objet-objet. Il y a quelque chose qui réagit. Et de l'autre côté, il y a une violence subjective extraordinaire. Il y a des faits divers qui nous laissent absolument sans voix. Qui viennent de quoi? Qui viennent du fait que c'est dans certains lieux, n'étant pas reconnu par une société dont le principe fondamental c'est l'hyperprofit, la productivité et la jouissance. Hein, la jouissance de l'hyperprofit. Lacan dit que c'est une jouissance en toc. En toc. Je crois que c'est vrai, mais ça n'empêche pas que c'est une jouissance. Il y a des clients pour cette jouissance. Et bien, dans cette violence que l'on peut trouver, c'est la violence de quelqu'un qui n'étant pas reconnu par les instances qui devraient le reconnaître, ne reconnaît rien et trouve dans la violence absolue l'occasion d'exister. Sa jouissance à lui.
Si on se place dans l'espace-temps, dans notre histoire et dans notre géographie, au fond, moi, j'ai envie de dire que ça a toujours existé. Peut-être là, ce qui nous révolte, c'est que ça nous touche, nous, maintenant.
C'est une question compliquée, parce que vous dites, au fond, on n'est rien de nouveau sous le soleil, si ce n'est que les choses nous concernent. C'est vrai qu'effectivement, dans la mesure où nous avons maintenant, nous, un monde dans lequel il y a des Suds, nous sommes plus le Nord, il y a des Suds chez nous. Il y a des Suds en Europe. D'ailleurs, l'Union européenne a réussi, en partant vers le cosmopolitisme heureux, à recréer des nationalismes, puisque l'Europe du Nord et l'Europe du Sud ne s'entendent pas, ce qui est gravissime. Enfin, je ferme la parenthèse sur l'Union européenne. Quelque chose qui se veut fédéral aboutit à des nationalismes entre un Nord et un Sud. Bien sûr que cette violence a toujours été. Mais est-ce que cette violence-là a autant de justifications que celles que pouvaient avoir éventuellement ceux qui développaient donc les capacités humaines par l'esclavage, ce système système est formidable. Vous lisez le chant de triomphe que Marx a osé et adressé à la bourgeoisie. Elle a renversé l'État, mais rien n'est sacré. Elle a tout détruit, elle a construit comme personne. Il y avait une force constructive dans tout cela, qui se payait d'un prix énorme. Or, je crois qu'aujourd'hui, ce système qui a toujours fonctionné à la production destructive, et donc à l'asservissement, quitte à intégrer les gens, à leur faire désirer leur propre asservissement, c'est une de ses forces. Aujourd'hui, il me semble que dans l'équation de la mise en relation de ces deux formules, production destructive, la destruction devient de plus en plus lourde et insupportable. C'est en ce sens que je dirais qu'il y a une nouveauté. Non pas parce qu'il n'y a pas eu de violence, pas d'esclavage, et que la condition ouvrière a toujours été celle de l'exploiter, et qu'avant les ouvriers, il y en avait d'autres, dont les esclaves, et que la solidarité n'a pas toujours été réelle entre les exploités, hein, il y a des Nico, vous, ça c'est vrai, mais je crois qu'il faut penser la spécificité du monde par ces deux violences qui sont plus fortes, et d'autre part, je crois aussi, par la transformation donc, sociale qui fait que ce système se rend invulnérable, se neutralise résistance ou la phagocyte, mais en même temps, il déplace incessamment le curseur en accumulant, je crois, donc une violence. Il n'y aura pas forcément d'explosion, il peut y avoir une implosion. Donc personne ne peut savoir, Marx croyait que la contradiction serait résolue heureusement parce que les forces productives se révolteraient. Je crois qu'on n'est plus dans ce schéma. Il peut y avoir un schéma catastrophe possible, comme il peut y avoir un schéma avec un nouvel état keynésien, néo-keynésianisme avec un nouveau compromis social, comme il peut y avoir peut-être quelque chose de plus engagé. J'en sais rien, c'est difficile de faire des prévisions sur ces phénomènes de longue durée, puis il faut avoir des connaissances historiques que seuls les historiens véritables ont et développent. Mais je crois quand même que dans l'histoire du capitalisme occidental, nous vivons une phase particulière.
Est-ce qu'au fond, le problème ne serait pas qu'on est dans la capacité de qualifier notre ennemi ? La finance, on ne sait pas trop qui c'est. Voilà.
C'est très vrai. Ça, je crois qu'effectivement, c'est un système qui existe en réseau. Et pour identifier les réseaux, les rapports de pouvoir entre les réseaux, c'est un système qu'on ne peut pas... On nous dit souvent qu'il faut attaquer au niveau global. Mais qu'est-ce que ça veut dire, attaquer au niveau global ? Moi, je trouve que c'est extrêmement difficile. Quand on ferme une usine, que la décision est prise à des milliers de kilomètres, il est hors de question que les gens qui sont concernés prennent l'avion pour aller protester devant les bureaux ou faire le sit-in ou même plus. Alors, je crois que c'est tout à fait vrai. Le caractère moléculaire de cette domination qui s'étend par réseau, qui touche toutes les activités, pas que la production ni la consommation, il n'y a qu'à voir les activités nouvelles et la culture même, eh bien, est réel. Mais il me semble aussi que malgré cette capillarité, ce caractère multiforme du réseau, il ne peut pas y avoir d'autre issue, je reviens à ce que je disais au départ, que si là où les gens sont, pour ceux qui dépendent encore d'eux. C'est une vieille distinction stoïcienne. Il y a ce qui ne dépend pas de moi et ce qui dépend de moi. Mais évidemment que pour vous et pour moi, il ne dépend pas de nous d'aller transformer le système financier et mettre un peu d'ordre dans l'histoire des subprimes et d'obliger les banques à faire un peu moins sale travail que ce qu'elles font. Mais il y a, je crois, que la seule issue possible, elle est petite, elle ne peut jouer que dans le local, parce que c'est dans le local que le global se réfléchit et se concentre. Voilà. C'est une réponse décevante, hein. Mais qu'est-ce qu'on peut trouver ? Avant d'avoir un mouvement de masse planétaire avec des forces syndicales qui vont restituer, on n'en est pas encore là. Je crois que le seul issue, c'est ce qui dépend de nous. Alors, il y a pas mal de choses qui dépendent de nous et qu'on a laissé passer.
Donc cette petite issue ne nous condamne pas à l'impuissance ?
Eh oui. C'est une petite issue, c'est-à-dire que c'est un point d'appui qu'il ne faut pas négliger, parce que je crois que les habitudes des appareils syndicaux et politiques est d'avoir négligé. Et je pense qu'en France, où le centralisme étatique a été très fort, où l'État a pu être protecteur, on a quand même idéalisé aussi l'État protecteur, on a perdu la tradition et un certain marxisme, je ne dis pas Marx de lui-même, c'est plus complexe, mais un certain marxisme, inévitablement, n'a pas pris en compte les capacités qu'avait, ça je l'ai découvert plus récemment, vous voyez, les vertus de l'associationnisme français, et qui a existé, le mutualisme, le mouvement des scopes actuellement, il y a tout un tas de choses qui laissent, on ne les analyse pas, elles ne communiquent pas entre elles. Alors, bien évidemment, s'il n'y a pas de communication, d'échange d'expérience, tout ceci est fragile, il risque d'être métabolisé, digéré et déplacé. Mais je crois que le seul point d'appui qu'on ait, il est là, il n'est pas dans les élections.
Et pourquoi peu de gens font le pari de la décroissance qui pourrait nous repenser à l'intérieur de la société ?
C'est une question qui est ouverte, mais enfin, elle est extrêmement complexe. La décroissance doit être gérée. Ça veut dire quoi pour les gens ? gens dont on va fermer les entreprises, vous les reconvertir. Là encore, il faut rentrer dans le local, dans le singulier, pour savoir ce que peut signifier la décroissance. Dans des régions qui ont perdu des milliers d'emplois, leur dire la décroissance, ils vous diront, mais nous, on l'a vu, la décroissance. Et qu'est-ce qu'on met à la place? Donc je crois qu'il faut pas... Il faut raisonner de manière moins massive. Il faudrait, non pas des concepts à la louche, comme cela, mais vraiment des cas singuliers où l'on peut montrer qu'effectivement, la décroissance est possible, qu'on ne peut pas... Où là, les écologistes ont raison, c'est qu'on ne peut pas envisager l'extension indéfinie d'un monde où la consommation serait égale partout à celle que l'on fait en Occident. Ça, c'est impossible. Mais là, oui, il y a un vrai problème de décroissance. Pour le reste, je crois que c'est des questions qui ne peuvent avancer que dans des expérimentations, des expériences faites en singularité par des nous et des collectifs.
Merci à André Tozel, philosophe et auteur, entre autres, d'essais pour une culture du futur paru aux éditions du Croquant, pour sa libre participation à cette émission réalisée avec la complicité de l'Huma Café de Nantes. Le prochain invité de l'Huma Café sera Jean-Marie Haribet, économiste, coprésident des économistes atterrés, coprésident du conseil scientifique d'Attaque. Il débattra sur le thème « Marx est-il écolo ?» ce vendredi 9 janvier 2015 de 18h à 20h, au lieu unique à Nantes.